Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On n'est pas sur le 120 volts, mesdames, messieurs, on est sur le 240. On est électrisé d'une semaine à l'autre. Sébastien Boucher qui est là avec moi. Salut Sébastien.
Salut.
Ah, une bonne humeur, ouais.
Oui, et puis toi aussi, belle semaine.
Oui, ça va très bien, ça va très bien. Vous verrez dans un instant la raison pour laquelle je vous parle de voltage, puis d'électricité, puis de choses comme celle-là, parce que ça annonce un petit peu le sujet que j'ai pour vous autres. Toi aussi, tu as de très bons sujets au cours de l'émission. Tantôt, dans le bloc du quart d'heure, enfin pour le retour de la première pause, soit nous parler d'alcool, je pense?
Oui, ben je trouve qu'on n'en parlera jamais trop à l'approche du temps des fêtes, notamment, que l'alcool, là, ça peut créer des dépendances, mais tellement subtiles, ça peut tellement être caché, on ne le sait pas nécessairement quand on a développé une dépendance à l'alcool. Et histoire de consommer de façon responsable là, et de se le remettre en tête là, bien comme il faut, bien gérer nos habitudes de vie.
J'aurai l'occasion de vous parler d'ici la fin de l'émission de l'origine des cerfs-volants. Tu as déjà joué avec un cerf-volant,
peut-être?
Alors, d'où ça vient, les cerfs-volants? Quand est-ce que ça a été inventé? On va vous parler de ça. Et toi, tu vas nous parler de nuages?
Oui, on va parler des nuages aujourd'hui. Puis, nouvelle étude là, qui parle un peu à l'échelle microscopique de ce qui se passe, parce qu'on connaît un peu la formation des nuages, les sortes de nuages. Mais là, on va aller plus loin avec qu'est-ce qui se passe avec les aérosols et au niveau microscopique pour former des nuages.
Et on aura d'autres sujets, dont, entre autres choses, pour clore l'émission dans le quatrième et dernier bloc, les collections.
Oh oui, puis ça, il y en a toutes sortes. Hein. Puis moi, j'aime beaucoup les collections. J'en ai fait plusieurs dans ma vie. Et puis là, on va parler des plus grandes collections qui existent, et des collections inusitées aussi, toutes sortes de choses. Mais ça pourrait vous donner le goût de partir des collections. On regardera ça un peu plus tard et ça peut donner des idées aussi avant Noël.
OK, parfait. Et dans un tout petit instant, je vais vous parler des stationnements qui sont maintenant de plus en plus à travers le monde, ou enfin plusieurs d'entre eux, recouverts par des, et c'est là que je vais arriver avec mon électricité, des cellules photovoltaïques pour produire de l'énergie solaire, de l'électricité. D'abord, on va y aller avec un petit retour sur un sujet dont tu as parlé la semaine dernière, les brevets. Sébastien, tu as parlé de brevets, puis il te restait encore des exemples de brevets à énoncer.
Ben oui, puis c'est ça, j'ai reçu des courriels, puis des gens qui disaient « Ah, ben là, tu disais que t'en avais plein d'autres, puis c'était comique, puis bon, tout ça. » On va juste en passer quelques-uns en début d'émission, ça va faire plaisir aux auditeurs, et puis ben à nous aussi, on va regarder ça. Donc, on avait vraiment fait un tour de plusieurs brevets qui avaient rendu des gens riches, d'autres brevets plus inusités. Et puis là, justement, dans la catégorie inusité, il y a eu un brevet qui a été accordé pour une cage buccale anti-ingestion. T'as juste à penser à Hannibal Lecter,
Dans
Le silence des agneaux. Tu sais, la fameuse affaire qu'il y a en face.
Ouais, ouais.
On a breveté ça, une cage buccale anti-ingestion. Ça fera pas long feu, ça non plus, sur le marché. Mais une nappe électrifiée conçue pour dissuader les insectes de ramper sur une nappe. C'est électrifié, ça électrocute les insectes, un peu comme une clôture invisible pour un chien. Voilà, on a breveté ça. J'ai regardé là, dans les livres de brevets, puis j'en revenais pas tout ce que j'ai pu trouver. Un revêtement de carrosserie résistant aux balles, hein, qui n'a pas peur de se faire tirer en voiture.
Oui, mais ça, remarque, c'est pas bébête. Là. Si, par exemple, tu veux recouvrir la peinture ou la tôle d'un véhicule, je sais pas moi, un véhicule de protection d'un premier ministre, d'un président ou quelque chose dans le genre, ça peut être quelque chose d'assez intéressant d'avoir, justement, une espèce de je sais pas, est-ce que c'est une peinture? Comment ça fonctionne, tu sais pas? T'sais?
Non, ben c'est un revêtement là que tu mets par-dessus comme pour le quand il est stationné là, je pense. Mais c'est pas clair. Ce que je sais, c'est que c'est breveté, un fameux revêtement résistant aux balles pour les. Hey. Une autre affaire que j'ai vu passer, un bière brella.
Un quoi?
Un bière brella. Tu sais comme un brella, comme umbrella.
Oui.
Un parapluie.
Ok.
Ben ça protège la bière du soleil.
Ah, tu mets ça par-dessus ta bouteille de bière ou ta canette, puis tu la protèges du soleil.
C'est quand même c'est breveté, ça, Simon. Mais ça fera pas long feu non plus parce que on sait que, tu sais, les petites pochettes isolantes, là, c'est beaucoup plus efficace là, pour les bières, là, les garder un peu au frais. Mais il y a des choses comme ça, toutes sortes de brevets. L'appareil pour le traitement du hockey. Tu sais, ça a l'air que c'est pas assez bien un verre qu'on boit dedans ou en fixant une cuillère ou tout ça. Mais ça aussi, j'ai su que pour le hockey, hein, je sais pas s'il y en a qui ont essayé le truc de boire un verre d'eau, puis là, tu regardes le fond d'une cuillère en l'accotant sur ton front, bien, ça a l'air que c'est pas vraiment le fixe qui fait que ça enlève le hockey, c'est le fait de lever le menton.
Ah, OK.
c'est le fait que ça soit ouvert comme ça en levant le menton en buvant notre verre d'eau. Donc, si on cale un verre d'eau quand on a le hockey, mais avec le menton très élevé, là, la tête part en arrière, ça fonctionne. Le hockey s'en va. Mais là, ils ont fait un appareil qui donne des chocs qui stimulent apparemment les nerfs spécifiques dans le but de guérir le hockey. Ça ne fonctionnera pas. C'est une autre affaire qui ne marchera jamais sur le marché parce que c'est, ça se guérit beaucoup plus facilement le hockey. Tondeuse à gazon à trois roues, ça a été breveté. Ça a l'air d'un tricycle pour enfants, mais avec une tondeuse à gazon qui fait après. C'est pas, ça donne pas grand-chose.
Je comprends pas le but d'avoir seulement trois roues comparativement à une tondeuse à quatre roues qui a, me semble-t-il, beaucoup plus de stabilité, enfin, je présume. Là, mais
ben, les gens essaient. Hein? Ils essaient pour faire de l'argent avec des affaires, mais ça n'a pas marché. Ceux que je vous nomme là, c'est des affaires qui n'ont vraiment pas marché. Le chapeau pour fumeur, c'est un chapeau avec une entrée d'air qui filtre et puis qui expulse l'air. Ça ressemble un peu à une hotte aspirante de poêle, mais on l'a sur la tête. Pour les fumeurs, tu verras pas ça dans la rue.
Non, mais ça doit être beau pareil. Tu sais, je veux dire, t'es sur le bord, je sais pas, moi, du bureau ou encore de l'hôpital, là, t'es à 10-12 pieds de la porte, puis là, le monde passe, puis t'as regardé, tu sais, t'es en train de fumer avec ton chapeau. Ça doit être beau. Ça doit avoir un style quand même.
Ça n'a pas de bon sens.
On a le temps pour une dernière?
Oui, ben, on pourrait parler vite, le hula hoop. Ça, c'est un qui a fait de l'argent, par contre. Vendre 100 millions de cercles en plastique en 2 ans, eh bien, ça s'est fait. C'est l'entreprise Wham-O qui a popularisé le hula hoop en 1958 et ils avaient envoyé le frisbee aussi la même année, l'année d'avant, la même compagnie. Donc, ils ont sorti le frisbee hula hoop. Alors, 1957-1958, ça a été un succès phénoménal. Et dernier, ben, ça serait pour annoncer un sujet qu'il y aura plus tard à l'émission.
Okay.
On va parler sûrement semaine prochaine de l'histoire des cure-dents. Parce qu'en cherchant dans les brevets, j'ai vu que je t'avais dit que des fois, on peut breveter une innovation, une invention qui existe déjà.
Ouais.
Ben, il y a eu une innovation des cure-dents en 1869. Un homme de Philadelphie qui a eu un brevet qui a fait une extrémité crochue puis un mécanisme en forme de cuillère après les cure-dents pour nettoyer les dents creuses et sensibles. Il a breveté ça.
OK.
Et il y en a d'autres qui ont cherché à améliorer encore l'expérience. Il y a un inventeur qui a imaginé un étui à cure-dents rétractable pour les amateurs de cure-dents élégants et raffinés. Et puis, même un revêtement parfumé, hein, ça aussi, ça avait été inventé. Puis, on sait bien qu'il y a des petits cure-dents à la menthe, tout ça. Mais ça, j'y reviendrai. On va parler de l'histoire du cure-dent parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est incroyable, l'histoire du cure-dent. Donc, on fera un sujet là-dessus. Mais pour aujourd'hui, ben, ça fait le tour des petits brevets.
La semaine prochaine, les cure-dents.
La semaine prochaine, on va parler de l'histoire des cure-dents, pas juste des brevets.
Je vous pose la question, qu'est-ce que le parc Disneyland Paris et l'école secondaire catholique Pope John Paul II, hein, le pape Jean-Paul II, donc il y a une école qui porte son nom à London, en Ontario. Qu'est-ce que ces deux endroits-là ont en commun, selon toi? Je pense que je l'ai dit un petit peu tantôt.
OK, mais là, ça m'échappe. Je ne sais pas.
Ben, ce sont des endroits qui sont dotés de stationnements protégés par des ombrières, des panneaux photovoltaïques. Et ces installations-là ont une double fonction et on voit ça de plus en plus à travers le monde. Parce que d'une part, les véhicules sont protégés du soleil et des intempéries, on le devine. Hein? C'est pas comme d'aller se stationner dans un stationnement qui est à ciel ouvert. Tu stationnes ton véhicule en dessous de ça, donc tu es protégé de la chaleur, de la pluie, de la neige et tout ça. Et en plus, et ça on voit ça de plus en plus, les panneaux qui sont installés au-dessus des cases de stationnement captent les rayons solaires pour faire de l'électricité.
Ben, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'on capte l'énergie solaire.
En Europe, le plus grand parking à ombrières photovoltaïques du continent a été mis en service pas plus tard que le printemps dernier à Disneyland Paris, je l'ai dit tantôt. Il est réparti, tu es bien assis là quand même, là, parce que c'est quand
même... Je suis bien assis.
20 hectares de terrain, c'est quand même grand. Ça devient une centrale photovoltaïque, une centrale à énergie solaire qui va faire 36,1 mégawatts crête de puissance et en tout et pour tout, ce stationnement-là, tout est recouvert de cellules photovoltaïques. C'est 11 200 places de stationnement en dessous desquelles vous allez vous stationner, que ce soit des véhicules légers comme des autos, des caravanes, même des autocars qui vont se rendre à ce parc d'attractions Disneyland Paris, en fait, depuis le printemps dernier, et qui sont protégés des intempéries et de la chaleur du soleil. Et en même temps, on produit de l'électricité. Parce qu'il y a pas moins de 82 000 panneaux solaires qui ont été installés là-dessus. Ça va permettre à Disneyland Paris de produire annuellement pas moins, je l'ai dit tantôt, de 36 gigawatt-heures d'électricité verte pendant une trentaine d'années. Et concrètement, là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette puissance électrique-là? Ben, c'est l'équivalent de la consommation électrique d'une petite ville d'à peu près 17 400 habitants. Donc, c'est quand même pas mal.
Est-ce que ça va se répandre, là, toute cette histoire de...
Ben, ce qu'on va s'en servir essentiellement, c'est que pour réduire l'empreinte écologique du parc d'attractions, on va se servir, grosso modo, de cette électricité-là pour faire fonctionner une bonne partie des installations. Donc, voilà.
C'est une idée qui peut faire du chemin, là, puis se retrouver à beaucoup d'endroits.
Ben, au Canada, hein, le projet est beaucoup plus restreint. En fait, cette installation-là, qui est à une école secondaire de London, je l'ai dit tantôt, Pope John Paul II, à London, en Ontario, ils ont fait installer, eux autres, en 2021, assez de panneaux solaires au-dessus des espaces de stationnement pour générer toute l'électricité dont ils ont besoin pour faire fonctionner l'école, imaginez-vous. C'est là depuis 2021, un projet qui a coûté 9,7 millions de dollars et on a installé 2700 panneaux solaires. Ça a permis de devenir, tu sais, on a comme une fixation par les temps qui courent de devenir carboneutre.
Ouais.
Ben, eux autres, ils sont carboneutres à cette école secondaire-là à London. Et ailleurs en Amérique, les projets commencent aussi à pousser. Denver, Colorado, par exemple, les panneaux solaires nouvellement installés au-dessus d'un stationnement d'une école secondaire vont permettre de générer de l'électricité verte qui va permettre de réduire la facture d'énergie des foyers. Et là, c'est bien parce qu'on va se servir de tout ça pour éclairer et, comment je dirais ça, mettre à température, je sais pas si c'est du chauffage ou encore le refroidissement, si on veut, des ménages à faible revenu de la ville. On va produire avec l'école secondaire de l'électricité, puis ça va être revendu à des coûts moindres, à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer l'électricité à gros prix. Alors, certaines familles peuvent s'attendre à connaître des baisses de leur facture annuelle d'électricité qui pourraient atteindre jusqu'à 700 $ de moins grâce à ces installations-là. Et je vais conclure en vous parlant du parc d'attractions californien Magic Mountain de la compagnie Six Flags. C'est un stationnement qui est recouvert d'ombrières photovoltaïques et ça va permettre de générer un peu plus de 12 mégawatts d'électricité renouvelable. Ça va fournir à peu près l'équivalent de l'électricité de 2800 foyers. Un projet qui a été lancé l'automne passé, c'est-à-dire en 2023, c'est ça. Et puis à terme, sa production électrique va compenser de ce côté-là également à 100% l'électricité dont le parc a besoin pour son fonctionnement. Donc, ça a l'air d'une vue de l'esprit là, de devenir carboneutre, mais on le voit, il y a moyen, avec des choses aussi anodines que des cases de stationnement recouvertes, de produire de l'électricité de façon éco-responsable en 2024.
Génial!
Oui, c'est intéressant, vraiment intéressant. Dans un instant, tu nous parles... À quelques jours ou quelques semaines du temps des fêtes maintenant, tu nous parles de la consommation d'alcool, c'est ça?
Oui, il faut faire attention à ça quand même, mais faut en profiter, faut savoir en profiter de la bonne façon.
Voilà, boire avec modération, parce que comme disait le vieux slogan, la modération, ça a bien meilleur goût.
Ben oui, ça goûte bon, la modération, miam miam.
C'est ça. Alors on revient dans un instant, restez branchés.
Peut contenir des infos.
On a tous joué avec un cerf-volant quand on était jeune, très certainement, Sébastien.
Oui, j'adorais ça. J'adore ça encore, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait.
Ou sinon, si on n'a pas joué soi-même avec un cerf-volant, on a vu un ami qui faisait voler un cerf-volant, puis on avait une petite pointe d'admiration, on regardait ça, puis c'est beau, hein, voir voler un cerf-volant quand même.
Oui, c'est difficile parfois, mais c'est une activité vraiment intéressante.
Il faut avoir la touche, effectivement. D'où viennent les cerfs-volants? Pourquoi ont-ils été inventés? Je vous raconte ça, c'est l'histoire des cerfs-volants, en grosso modo, 5 minutes à peu près. Ça nous ramène, est-ce que tu seras surpris si je te dis que ça nous ramène plusieurs siècles, voire même des millénaires en arrière?
Non, pas trop surprenant. La plupart des choses nous viennent d'il y a très longtemps dans ce genre de choses-là.
Ben, les choses basiques comme celle-là, ouais, effectivement. Les premiers cerfs-volants, ils étaient faits de soie et de bambou. Ils ont vu le jour en Extrême-Orient. Vous ne serez pas surpris.
Okay.
On dit que c'est très certainement en Chine, selon les spécialistes. Et on les a vus apparaître il y a de 2500 à 3000 ans environ. Et certains parlent même de 4000 ans. T'sais, on comprendra qu'à cette époque-là, c'est difficile de mesurer ou de mettre un point précis sur l'histoire où ça a apparu. Mais c'est à peu près à cette époque-là. Et il y a plusieurs légendes qui attribuent l'invention du cerf-volant à divers personnages. L'une d'elles veut que ce soit le général Han Xin qui s'est servi d'un cerf-volant pour mesurer la distance jusqu'à une forteresse au 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais l'une des légendes les plus populaires veut plutôt que le premier cerf-volant aurait été inventé par un philosophe chinois qui s'appelle Mo Zi. Il était aidé par un charpentier, architecte et stratège chinois Lu Ban et les deux ont vécu à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Bon, placez-vous dans l'histoire, là, ça fait quand même 500 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. On est encore en 2024, donc ça nous ramène grosso modo à 2500 ans en arrière ou à peu près. Et une chose sur laquelle les gens s'entendent néanmoins, on ne sait pas précisément où et quand le cerf-volant, où on sait que c'est à peu près à l'Extrême-Orient, mais dans quel shop, là, on va dire, ou dans quelle maison, si on ne le sait pas, mais on sait que les premiers cerfs-volants servaient à... À quoi ça servait, d'après toi, les premiers cerfs-volants? Pourquoi
c'était... C'était certainement pas juste pour s'amuser, il devait avoir une utilité derrière.
C'était à des fins militaires.
Ah, vraiment?
Ouais, à des fins militaires, on les utilisait notamment parce que, tu sais, à l'époque, aujourd'hui, les avions sont très utilisés dans le domaine de la guerre. Hein? Mais à l'époque, il n'y avait pas d'avions. Alors, ce qu'on a fait, c'est que pour envoyer des messages aux troupes, pour effrayer les ennemis ou encore pour mesurer les distances qui nous séparaient des troupes adverses, on a inventé les cerfs-volants. On faisait voler un cerf-volant, puis là, en le voyant à la hauteur où il était, à la distance, on disait, ben, avec la longueur de la corde, on disait, bon, tu sais, ils sont à grosso modo tant de centaines de mètres de nous autres, ou encore si on voulait envoyer des messages à nos alliés, on se servait des cerfs-volants. Et au fil du temps, évidemment, que ça a gagné en popularité et ça s'est étendu, d'une part, sur le reste du continent asiatique, Corée, Japon, Indonésie et l'Inde. Et chaque culture a développé ses propres styles et ses propres utilisations des cerfs-volants. En Indonésie, par exemple, les cerfs-volants ont été utilisés dans des rituels pour assurer de bonnes récoltes. Et on faisait ça au début de la saison. Et à la fin de la saison, pour célébrer les bonnes récoltes, on faisait voler des cerfs-volants. Au Japon, ils étaient souvent fabriqués en forme de personnages mythologiques. Ils étaient utilisés pour célébrer des événements religieux ou festifs. Tu as déjà vu les cerfs-volants japonais, entre autres?
Je pense que oui. Je pense que oui. C'est très coloré.
Oui, c'est très coloré. Il y en a certains. Oui, il y en a en forme de dragon, par exemple.
Oui, c'est ça.
On voit ça voler dans le ciel. Alors, c'est pour célébrer, par exemple, des événements religieux ou festifs. En Inde, les cerfs-volants font partie intégrante des festivals comme le Makar Sankranti. C'est une célébration du calendrier hindou en l'honneur du dieu Surya. Puis là, on fait voler des cerfs-volants. Okay. Et ça a quand même pris quand même quelques années, là, avant que les cerfs-volants arrivent jusqu'à l'Occident. On dit que les cerfs-volants ont été introduits en Europe seulement au 13e siècle.
OK.
Et on ne sera pas surpris d'apprendre que... Qui, selon toi, a amené ça, 13e siècle ou à peu près?
Tu me poses beaucoup de questions aujourd'hui qui me mettent à le 13e siècle. Connais-tu des personnages du 13e siècle?
C'est pas nécessairement des personnages...
Okay, une nation, mettons?
Ben, ou une catégorie de gens, selon toi. Tu prendras pas un grand guess. Les marchands et les explorateurs.
OK.
T'sais, on faisait l'exploration. À cette époque-là, on s'en allait chercher des soies, on s'en allait chercher des épices, on s'en allait chercher plein d'autres denrées du côté de l'Asie. Puis, à peu près à cette époque-là, on ramenait tout ça en Europe, on ramenait tout ça au Proche-Orient, on va dire, quand on revenait de l'Extrême-Orient. Puis, en même temps, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a rapporté des cerfs-volants dans ses valises, puis il a commencé à faire voler ça. Alors, au 13e siècle, à peu près, on a vu apparaître les cerfs-volants en Europe. C'était surtout quand c'est arrivé, là, ça n'avait pas de fonction militaire, parce qu'on connaissait pas les cerfs-volants. On s'en servait surtout comme des jouets exotiques. Et ils ont quand même, relativement tôt après leur arrivée, on a commencé à s'en servir comme des outils, on va dire, scientifiques. D'ailleurs, on a introduit assez peu de temps après leur arrivée en Europe, quand les Européens sont arrivés sur le continent nord-américain, tout de suite ou presque, ils ont apporté avec eux les cerfs-volants et on s'en est servi comme des outils scientifiques. Benjamin Franklin, par exemple, tu connais Benjamin Franklin?
Oui.
Hein? 1752, c'est très certainement l'un des plus, l'un des plus connus usages scientifiques du cerf-volant. Franklin, qui a fait la démonstration de la nature de l'électricité des éclairs avec un cerf-volant en 1752. 10 juin 1752, il prend une clé en métal, il attache ça sur une ficelle d'un cerf-volant, envoie le cerf-volant pendant un orage et là, il fait la démonstration que ce cerf-volant-là ou cette clé métallique attachée à un cerf-volant capte ou est un récepteur de l'énergie électrique et de cette façon-là, Benjamin Franklin entre dans l'histoire grâce, grosso modo, à un cerf-volant. Et pour terminer cette partie historique sur les cerfs-volants, même durant les deux grandes guerres mondiales, il y a un fait que les gens ignorent, là, c'est que les cerfs-volants ont servi, entre autres, à observer les lignes ennemies et on s'en est servi aussi comme antenne de transmission radio. Hein? Alors,
Ben oui, ça se peut.
Absolument. Alors aujourd'hui, c'est évident que les drones ont remplacé les cerfs-volants là, pour, par exemple, des compétitions. On s'en sert plus tellement, les cerfs-volants, pour la science, parce que même pour faire des observations météorologiques, on sert beaucoup plus de drones que de cerfs-volants. Mais il y a quand même, encore aujourd'hui, des festivals du cerf-volant qui subsistent à travers le monde entier. Et tu sais qu'il y a du côté de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, un festival international du cerf-volant.
Oui.
Surveillerez ça. Ouais. Faites une recherche en ligne.
Je le sais, j'habite juste à côté de Dieppe.
Ben alors, faites une recherche en ligne. Festival international du cerf-volant Dieppe, au Nouveau-Brunswick. On célèbre encore en 2024 les cerfs-volants.
Hey, mais petite question, Simon, tu disais qu'il espionnait avec ça. Comment il faisait? Il n'y avait pas de caméra à l'époque pour espionner pendant le...
Non, mais il y avait des appareils photo.
Il pouvait servir d'un cerf-volant puis réussir à prendre une photo à partir des airs.
Il patentait un système de déclencheur à distance, si on veut, et puis il prenait des photos avec ça. Et là, il rapportait le cerf-volant, il prenait la photo, développait la photo, et là, il était capable de voir les installations, de quelle façon c'était monté. Bon, là, on voit un tank. Là, on voit, par exemple, qu'il y a des troupes de stationnés avec des cerfs-volants. C'était beaucoup plus discret entre vous et moi de faire ça que d'envoyer un avion, tu sais.
Oui.
Évident. L'alcool! On va parler d'alcool pour les 6-7 prochaines minutes.
Ben, c'est que là, le temps des fêtes arrive, hein, puis on sait que ça fait partie de la vie. C'est un des plaisirs de la vie, un peu d'alcool. Hein. C'est pour beaucoup de gens. Il y en a qui ont complètement mis ça de côté, et surtout des gens qui ont vu que ça pouvait leur causer des problèmes par rapport à des grandes dépendances, tout ça. Puis, les signes de la dépendance à l'alcool, les repères de comportement à suivre pour limiter les risques, ben c'est de ce qu'on va parler un peu aujourd'hui. Puis la consommation d'alcool, en fait, c'est responsable de plus de 200 maladies quand même, là, de la cirrhose alcoolique à certains cancers. C'est un facteur de risque, comme par exemple cancer de la bouche, du larynx, du foie. Donc, c'est à pas prendre à la légère, là, c'est quand même un produit dangereux. Et puis, l'alcool, ça accroît aussi le risque de maladies cardiovasculaires, puis c'est une cause de mortalité prématurée. Alors, des troubles cognitifs sont observés, on dit, chez plus de la moitié des personnes qui sont dépendantes à l'alcool, on peut dire alcoolo-dépendantes. L'altération de la mémoire, inadaptation de certains mouvements. Et puis, les spécialistes ont établi 3 recommandations dont je vais vous parler, qui sont les recommandations phares, en fait, concernant la consommation d'alcool. Alors, on le rappelle, ce serait l'idéal pas plus de 2 verres par jour, de 10 verres par semaine et au moins 2 jours sans alcool par semaine. Ça, c'est vraiment pour empêcher le fait qu'on puisse développer quelques problèmes que ce soit. Mais les gens âgés de 65 ans et plus, après 65 ans, en fait, là, c'est plus strict, les recommandations. Il faut vraiment faire attention parce que l'organisme en vieillissant tolère moins bien l'alcool. Donc, il faut être vraiment plus rigoureux lorsqu'on vieillit. Mais les spécialistes disent aussi, au-delà de 2 verres d'alcool par jour, c'est que là qu'on considère qu'il y a un risque de dépendance. Puis, il n'y a pas nécessairement de symptômes de dépendance quand on est dépendant à l'alcool. C'est ça qui est sournois un petit peu. Comme pour toutes les drogues, la dépendance est définie comme le besoin d'en consommer pour maintenir le niveau auquel notre organisme est habitué. Mais dans les recommandations, on dit qu'un verre, pour dire un verre, c'est quoi exactement? C'est une dose qui contient à peu près 10 grammes d'alcool. Là, quand je vous dis 2 verres par jour, là, ben un verre, c'est 250 millilitres si on parle de bière. C'est 100 millilitres seulement si on parle de vin. Et c'est 30 millilitres si on parle d'alcool fort comme le whisky ou tout alcool distillé. Là. Donc, lorsqu'on parle de verre, là, prenez-vous pas un gros verre de whisky en disant « j'ai pris mon verre ». C'est ouais, seulement c'est 30 millilitres là, le verre là, pour du fort. Et la dépendance, ben souvent, c'est le fait qu'on se rend compte qu'on peut avoir des problèmes personnels. Je veux juste que vous soyez vigilants là-dessus, même interpersonnels. On peut avoir des signes physiques, une perte de contrôle de la consommation qui devient compulsive aussi. C'est un signe qu'on devient dépendant. Ou une envie irrépressible de consommer qu'on appelle craving en anglais, là. Si on veut vraiment en avoir à chaque jour, là, c'est sûr qu'il faut se poser des questions. Et il y a un questionnaire qui existe pour déceler votre risque de dépendance. Alors, je vous propose ça. Ça a été développé par l'Organisation mondiale de la santé. Puis, c'est 10 petites questions très simples. Et après avoir répondu à ça, il y a un score qui vous indique le niveau de risque de dépendance à l'alcool que vous avez. Alors, si vous avez une très forte dépendance, les crises de manque peuvent survenir. Puis là, souvent, on peut même avoir des suées, des tremblements, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque, là, qu'on appelle la tachycardie. Tout ça peut arriver. Les signes pour vous alerter, là, si vous avez peut-être un problème, parce que comme je te dis, c'est tellement sournois. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est la grande raison, c'est que vous pouviez, dans votre passé, avoir développé une dépendance à l'alcool et jamais vous en êtes rendu compte, donc vous ne portez pas vraiment attention à ça. Si on boit pour éliminer des phénomènes désagréables, comme par exemple de l'anxiété. Et quand on boit, ça passe le problème. C'est parce qu'on est en train de développer cette dépendance qui pourrait être dangereuse. Si on a des tremblements quand on reste à jeun, c'est certain qu'il y a un problème là, et il faut aller voir. Si, par exemple, on arrête certaines activités, on n'a plus le goût d'aller au travail, on arrête des loisirs ou les études parce qu'on consomme trop d'alcool, c'est nécessairement rendu un gros problème. Et souvent, c'est juste que l'entourage va nous faire des remarques. Mais quand votre entourage fait des remarques sur vos habitudes de boisson, là, prenez pas ça à la légère. Sérieusement, et ça peut causer des problèmes beaucoup plus graves par la suite. Si vous voulez faire preuve d'un beau respect, tout ça, prenez-en compte et tentez de régler le problème. L'organisme développe une tolérance avec le temps à l'alcool. Alors, le problème, c'est que la dépendance qui s'installe progressivement, c'est difficile d'en prendre conscience parce qu'on est tout simplement plus résistant. On boit, puis ça ne nous fait plus l'effet d'avant. Mais à ce moment-là, vous êtes devenu dépendant à l'alcool. Donc, non, ça n'a pas l'air de vous créer un problème. Mais si l'alcool ne vous saoule plus, ça ne vous fait plus le même effet qu'au départ, c'est là que c'est le temps de réfléchir et de diminuer sa consommation et de revenir à l'effet que ça donnait au départ. Parce qu'il y a une petite enzyme qui est dans le foie qui détruit l'alcool et à mesure qu'on augmente la consommation, l'enzyme devient de plus en plus performante et ça nous cause des problèmes parce que là, elle réussit à enlever ça, mais ça cause physiquement un problème à long terme. Puis, il y a une vulnérabilité individuelle à la dépendance dans laquelle interviennent plusieurs facteurs. C'est sûr que le génétique, les facteurs comportementaux, environnementaux, il y a plein de travaux qui ont montré que certains gènes sont associés à une augmentation du risque de consommation d'alcool problématique. Sauf que il n'y a pas de gène qui est le gène de la dépendance à proprement parler. C'est juste qu'on en a plusieurs qui peuvent jouer. Alors, juste pour terminer, 70% des adultes trouvent ça acceptable de faire goûter une boisson alcoolisée à des jeunes de moins de 18 ans. Dans les sondages. Et 30% d'entre eux estiment que même avant 15 ans, c'est correct. Mais le problème, c'est que faire goûter l'alcool aux enfants, ça augmente beaucoup le risque de consommation à l'adolescence. Et les jeunes font ça, hein, les boire beaucoup là, d'un coup là, pour des jeux, des concours et tout ça. Et ça devient extrêmement dangereux pour développer cette dépendance plus tard. Donc, soyez responsables. Pendant le temps des fêtes, on boit de l'alcool de façon responsable pour s'amuser un petit peu. Mais essayez de respecter les normes qu'on donne, là, 2 verres par jour, avec 2 jours au moins par semaine où on ne consomme pas. Et vous devriez éviter les gros problèmes avec ça.
On ne veut pas vous faire la morale, mais quand même, c'est parce qu'on tient à vous autres aussi, à quelque part, hein, c'est ça.
Absolument.
Dans un tout petit instant, Sébastien, on revient avec les nuages, entre autres choses, hein, c'est vrai?
Oui, on va parler des nuages au prochain bloc. Je pense qu'il y a des petites choses nouvelles que je vais vous apprendre concernant les nuages aujourd'hui.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On est rendu qu'on attaque la 3e ligne droite de l'émission et nous allons parler, entre autres choses, des nuages dans ce bloc-ci.
Oui, Simon. Aujourd'hui, les nuages, tu sais, à l'école, on enseigne que les nuages se forment dans des mouvements de masse d'air, que leur naissance, c'est une histoire de condensation, on sait bien ça, puis transformation de vapeur d'eau en gouttelettes liquides, suspension dans l'air. Sauf que là, aujourd'hui, on pousse un peu. La recherche maintenant regarde le processus à l'échelle microscopique des nuages, hein, parce que pour générer la condensation, créer des gouttelettes, il faut un support. On vous avait sûrement dit à l'école, là, tu sais, il y a souvent des petites poussières qui sont dans un flocon de neige et qui forment des nuages aussi. Ça prend un support qu'on appelle les aérosols. Et la taille et la nature des aérosols, ça varie. Plus souvent, c'est d'origine naturelle, comme des sels de mer, des composés organiques. Ça peut même être vivant, comme des bactéries, des petites micro-algues, des pollens. Et c'est produit aussi par l'activité humaine, comme des poussières qui sont émises par nos usines, là, les feux de cheminée, des particules issues de la circulation automobile. Bon, tout ça se retrouve dans l'air, ça devient des aérosols. Et quand ça provient du sol, on les dit primaires. Quand ils sont créés directement dans l'air par oxydation sous l'effet des rayonnements solaires et infrarouges, ils sont qualifiés de secondaires. Et là, en fonction de la composition chimique des aérosols, ben un nuage, ça peut avoir différentes propriétés. Les nuages qui sont riches en aérosols issus de la pollution, ben eux sont particulièrement brillants. C'est des nuages plus brillants que les autres parce que les particules forment des gouttelettes plus nombreuses et petites que les particules naturelles. Puis la réflexion de la lumière est donc plus forte. Fait que des nuages pollués, là, c'est brillant. Et les sels de mer, eux, facilitent la production de pluie. Puis les poussières de combustion semblent plus fréquentes dans les nuages de grêle.
Ah ouais, hein?
Alors, ça fait une différence, on ne savait pas tout ça. Mais pour étudier ces phénomènes-là, les météorologues disposent d'un aspirateur à nuages, un collecteur d'eau atmosphérique. C'est un dispositif de recherche qui est unique au monde, qui est installé au sommet du Puy de Dôme, à 1465 mètres d'altitude. L'appareil capte les nuages de la troposphère libre. Ça, c'est une partie de l'atmosphère qui permet le transport des masses d'air sur des grandes distances et au-dessus de la couche d'air qui reçoit les émissions locales et qui proviennent de la surface. Puis on y trouve des traces de composés qui proviennent de l'autre bout de la planète, comme par exemple des méga-feux qui ont ravagé les forêts du Canada l'été dernier qui se retrouvent partout autour du globe. Et puis, de la pluie à volonté avec la maîtrise des mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans la condensation des nuages revient ce rêve ancien, disons, là, de savoir faire tomber la pluie.
Ouais.
L'ensemencement des nuages, ça consiste à envoyer dans l'atmosphère un produit qui est l'iodure d'argent, sel de sodium ou cristaux de glace pour qu'il constitue des noyaux de condensation. Puis avec ça, on peut faire pleuvoir. C'est quand même spécial. On peut récolter l'humidité d'une masse d'air, faire pleuvoir chez soi plutôt que chez le voisin, mettons, avec une efficacité quand même relative. Mais d'après un rapport de l'OMM, 0 à 20% selon les conditions et les techniques qu'on peut y arriver. Puis le procédé n'a pas de réglementation présentement. En France, il y a certains vignobles qui l'emploient pour réduire les dégâts liés à la grêle, puis ils font tomber de la pluie.
Je sais, entre autres choses, que dans la péninsule arabique, par exemple, où, évidemment, les précipitations ne sont pas nécessairement très, très nombreuses durant l'année, on s'est lancé depuis déjà plusieurs années dans, justement, la recherche, l'étude sur ce phénomène-là de création des nuages artificiels, ouais, dans le but de générer de la pluie, grosso modo, au final. Là, c'est un petit peu, ouais, ça.
Il faut faire attention, par contre, il y a des produits comme l'iodure d'argent, c'est soupçonné d'affecter les écosystèmes terrestres et aquatiques. Il faut faire attention aux produits qu'on envoie dans l'atmosphère quand même. Ouais. Mais il y a manière de créer de la pluie. Puis l'affaire du réchauffement climatique, les nuages ont un effet ambivalent là-dessus. Je vais te parler juste d'un gars de laboratoire, Laurent De Guillaume, un météorologue en France. Et puis, il dit qu'en bloquant la radiation solaire, on abaisse la température terrestre, mais ça retient aussi les rayons infrarouges qui sont émis par le sol. Alors, comprendre leur effet global, c'est un défi pour la recherche. Même les modèles climatiques les plus puissants, là, ils s'y perdent complètement présentement. Alors, on en a qui ont... Ceux qui sont utilisés par le GIEC ont une résolution de plusieurs kilomètres, mais c'est trop grand pour simuler correctement les nuages. Puis donc, ça reste un inconnu du changement climatique, un peu, les nuages. Mais ça nous fournit des renseignements, les nuages, sur le temps qu'il va faire. Et là, ça devient très intéressant et utile. Si on peut les identifier, là, on peut faire des prévisions météo, hein, avec les nuages, selon leur altitude, leur forme, le sens de leur développement, s'ils sont verticaux ou horizontaux. On classe les nuages en différents types. Il y a 10 catégories principales de nuages qui se regroupent en 4 classes, selon l'altitude à laquelle le nuage se forme. Alors, je vais te dire vite, là, pour désigner l'altitude, on utilise les préfixes siro, alto, strato et cumulo. Ça, vous avez entendu ça à l'école. Bien, siro, c'est pour dire que c'est à l'étage supérieur, plus de 6000 mètres. Alto, c'est l'étage moyen, entre 2000 et 6000 mètres. Strato, l'étage inférieur, moins de 2000 mètres. Et cumulo, c'est une grande extension verticale, le nuage. Alors, certaines apparences de nuages sont décrites par des noms latins, comme stratus, cirrus, cumulus, nimbus. Fait que là, on peut mixer tous ces mots-là.
Oui.
C'est là que ça donne tout le... Donc, stratus, c'est une couche grisâtre, c'est des fines gouttelettes d'eau. Cirrus, il est séparé en forme de filaments blancs, comme un peu chevelu, là, des petits fibreux. C'est composé de cristaux de glace. Cumulus, c'est des contours bien délimités. La partie supérieure prend la forme d'un chou-fleur. Ils sont d'un blanc éclatant aussi, donc cumulus. Et les nimbus, c'est des nuages précurseurs de pluie. Donc, quand tu fais les... différentes associations, bien, ça peut donner cumulus, cumulonimbus, stratus, nimbostratus, stratocumulus, altostratus, altrocumulus, cirrus, cirrostratus et cirrocumulus. Ça, c'est les 10 sortes. Mais quand on regarde, là, un cumulus, c'est associé au beau temps. Un cumulonimbus, habituellement, il y a des éclairs et du tonnerre. Mm-hmm. Là, vous vous rappelez peut-être pas de tout ce que j'ai dit pour considérer le nimbus, c'est quoi? Mais un nimbostratus, c'est des nuages gonflés de pluie ou de neige. Les stratocumulus, ils cachent mal le soleil, là, parce qu'il y a des petits filaments. Hein. Généralement, ça suit un refroidissement de température. Altostratus sont précurseurs de mauvais temps. Altocumulus, pas de précipitation ou très peu. Les cirrus, c'est les nuages du beau temps. Les cirrostratus, ça couvre souvent tout le ciel et c'est précurseur de mauvais temps. Et les cirrocumulus, bien, c'est avant ou après le mauvais temps. Mais si vous regardez ça, là, apprenez-les. Puis, vous allez pouvoir regarder le ciel et pouvoir prévoir toutes sortes de choses sans même être allé voir Environnement Canada ou Météo Média ou des choses de ce genre.
Exactement. C'est une des raisons ou des façons dont les météorologues se servent justement pour prévoir s'il va y avoir des précipitations ou pas, simplement en regardant le courant des nuages, les masses nuageuses qui s'en viennent. Ils disent « Ah, mais là, il risque d'avoir de la pluie parce qu'il y a tel type de nuages qui sont en atmosphère, les vents viennent de telle place, puis il y a des courants en jet, des choses comme ça. » Donc, tu sais, on aura beau dire que la météo, c'est pas une science exact, dans le sens que c'est difficile de se projeter dans le temps puis de prévoir les prévisions météorologiques sur des fois des semaines et des... Tu sais, on voit ça des fois, ils nous annoncent la météo de la semaine prochaine, mais il y a certaines affaires, tu l'as dit, là, les types de nuages, ça aide à prévoir quand même.
Oui, puis si vous voulez pas lire nécessairement sur le sujet, réécoutez ça sur le web. Cette émission peut contenir des infos, vous mettrez stop, pause, puis vous allez réussir à tout savoir sur les...
Prenez des notes, tu sais. Stratus cumulonimbus, ça annonce des orages, puis OK, c'est bon. Et ça clôt pour les nuages?
Oui, pour aujourd'hui, oui.
Bon, c'est bon. Je vais vous parler de quelque chose d'assez fantastique, une machine à laver les êtres humains. Machine à laver les humains.
Mais ça, c'est d'accord.
OK, vous allez vous faire l'image quand je vais vous en faire la description dans quelques instants. C'est une machine futuriste pour laver les humains qui est en voie d'être complétée. Et c'est vrai, là. C'est une société japonaise qui est basée à Osaka, au Japon. Et elle va présenter cette machine-là à l'exposition d'Osaka Kansai en avril 2025. Vous avez le temps de booker votre vol et de, si ça vous tente d'y aller, de vous booker une chambre d'hôtel pour aller l'essayer à part de ça, parce qu'on va pouvoir l'essayer. C'est ça qui est fantastique.
Okay.
Ouais, il y a une invention à peu près similaire qui a été développée par Sanyo. Sanyo, qui est aujourd'hui rebaptisé Panasonic. On avait déjà présenté une machine à laver les humains à l'exposition universelle de 1970 au Japon.
Okay.
Tu sais, on est rendu en 2024. Ça fait plus qu'un demi-siècle qu'on a inventé une machine à laver les humains.
Une machine à laver les humains.
Ouais, ouais. Et puis, c'est pas une centrifugeuse, là. Je veux juste que vous compreniez. C'est pas comme la laveuse que vous avez dans le sous-sol ou dans la salle de lavage chez vous, là, qui spinne du monde, là. C'est pas ça. L'entreprise japonaise reprend le concept que Sanyo avait développé, donc plus d'un demi-siècle plus tard. Elle s'appelle Science Company et elle se spécialise, cette entreprise-là, dans l'innovation, dans les salles de bain et la robinetterie de cuisine, entre autres choses. Et là, ce qu'on fabrique, entre autres, quand on parle de robinetterie de produits de salle de bain, c'est qu'eux autres sont spécialisés dans les baignoires et les pommes de douche. Et ils utilisent une technologie de bulles microscopiques pour nettoyer le corps. Et c'est précisément ce dont on va se servir pour l'adapter à cette machine à laver les humains. Quand on avait présenté la version 1970 qui s'appelait le Ultrasonic Bath, c'était une baignoire de forme ovoïde, donc la forme d'un œuf, grosso modo, qu'on remplissait d'eau chaude et ça émettait des ultrasons. Ben, c'est un peu une technique semblable qu'on va utiliser, mais à quelques différences près. Et je l'ai dit tantôt, les gens qui vont visiter l'exposition d'Osaka Kansai en avril 2025 vont pouvoir l'essayer jusqu'à 1000 visiteurs pourraient essayer le concept de cette machine à laver les humains durant toute la durée de l'exposition. On dit que de 7 à 8 personnes par jour vont pouvoir essayer cette machine. D'ailleurs, on commence à prendre les réservations. Il y a une page tout à fait spéciale qui a été mise en ligne là, sur le site Internet de Science Company. Et puis, les gens vont pouvoir s'inscrire. Et ça n'a rien à voir avec la machine à laver les vêtements. Là. Il n'y a pas de tambour, il n'y a pas d'agitateur. Vous ne vous ferez pas spinner d'un bord et de l'autre. Non, c'est ça. La machine, c'est comme un cockpit d'avion de chasse, grosso modo. Donc, fermez les yeux. Vous avez déjà vu un avion, un chasseur, là, comme un F-18, par exemple. Alors, c'est un peu ça. Et il y a une sorte de verrière transparente qui s'ouvre vers l'arrière, à la manière d'un avion. Et une fois qu'on est assis à l'intérieur, l'appareil se remplit partiellement d'eau chaude. On s'installe dans un siège central et il y a une série de capteurs qui sont intégrés au siège. Donc, on mesure le pouls de la personne, on mesure d'autres données biologiques et là, on garantit que, d'une part, la température de l'eau est la température parfaite pour vous laver. Et là, on vous asperge avec des jets. Il y a un système d'intelligence artificielle qui détermine est-ce que la personne est en état d'excitation ou en état de repos? Est-ce que les jets sont trop puissants et tout ça? Et on vous arrose tout simplement comme ça avec des bulles d'eau microscopiques. Et on projette en plus, c'est comme si c'était pas assez. C'est quasiment un spectacle son et lumière. On projette des images à l'intérieur pour passer le temps. Pendant que le nettoyage s'effectue, on dit qu'en tout et pour tout, le cycle de lavage et de séchage, ça prend une quinzaine de minutes. Donc, c'est grosso modo le temps d'une douche. Alors, cherchez ça en ligne, machine à laver les humains. La compagnie s'appelle Science Company et c'est bel et bien vrai, là. Ben, c'est comme prendre, grosso modo, là, c'est comme prendre une douche dans une baignoire, à toute fin utile.
Et te laisser faire.
Tu fais rien. Il y a des capteurs, il y a l'intelligence artificielle qui est là. Ah, il est encore à laver en dessous des pieds, on va garocher juste un petit peu d'eau là. Puis lève les bras un petit peu pour te laver. Tu sais, c'est ça, grosso modo. On est rendu là.
Simon, on va au Japon en 2025 se laver.
C'est clair. On va prendre un billet d'avion, on va prendre une chambre d'hôtel, on va aller se faire laver par une machine à laver les êtres humains.
Un peu saugrenu.
Dans les catégories. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de breveter ça? Je pense que c'est peut-être pas là, mais comme c'est pas loin de ça quand même. Ça clôt pour ce troisième bloc de l'émission. Dans un instant, on consacre toute la dernière ligne droite, notre quatrième portion de Peut contenir des infos, aux collections. C'est ça, hein?
Oui, et Dieu sait à quel point il y en a de la collection possible. Hein? C'est incroyable, ça prend des bonnes idées des fois pour partir une collection, mais on va parler des plus grandes qui existent.
Peut contenir des infos.
Quand j'étais petit, je me souviens que ma mère avait deux ou trois collections, en fait. Trois vraies belles collections. Elle avait une collection de stylos. De stylos d'à peu près toutes les sortes. Elle avait une collection de porte-clés. Et elle avait une collection, est-ce qu'elle les a encore, je ne sais pas, mais elle avait aussi une collection d'épinglettes et de macarons. Il y en avait de toutes les sortes, de l'Expo 67, tu sais, comme il y en avait de toutes les sortes, puis ça venait d'un peu partout à travers le monde. On va parler dans ce dernier bloc-là des collections, Sébastien, c'est bien ça, hein?
Oui, moi tu me parles de ça, là, ce que tu avais vu quand tu étais jeune, je me rappelle, moi j'avais une tante qui avait tous les petits bonhommes Schtroumpf, là. Il y en avait des milliers de différents, puis ça faisait. Ouais. C'était tout bien présenté dans ses armoires avec des vitres, puis on les voyait derrière les vitres. Donc, il y avait des milliers de bonhommes Schtroumpf. J'ai trouvé ça merveilleux comme collection, puis ça m'avait déjà donné le goût d'en avoir des collections d'envie.
Est-ce que ça existe encore, cette passion des collectionneurs? J'imagine que oui.
Ben, je pense que oui. Si tu regardes, là, dans le monde, il y en a beaucoup, là, de sortes de collections. C'est sûr qu'on pourrait dire les plus fréquentes, là, les plus répandues sont les collections de timbres.
Ah oui.
Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle la philatélie.
Okay.
Et donc, c'est la reine des collections qu'on dit la philatélie, tellement que c'est ça qui est le plus répandu. Peut-être parce que ça regroupe le plus d'amateurs aussi aux quatre coins de la planète. C'est une passion qui transcende les cultures, les générations, l'affaire des timbres. Il y a un philatéliste vietnamien qui s'appelle Do Thanh Kim, qui est connu comme le loup blanc, c'est son surnom. Après 50 ans de collection, lui est le fier propriétaire de plus d'un million de timbres. C'est pour donner un exemple. Il y en a des grandes collections comme ça. Et parmi les plus grandes aussi, il y a celle de la reine Élisabeth II, celle du prince régnier de Monaco, qui ont été là, des grandes, grandes collections de timbres. Mais ça, ça en est une courante. Et celle aussi dont on peut parler, la monnaie, des pièces de monnaie ou tout ça. Ça, mon père a ça, lui, justement, timbres et monnaie. C'est ces deux collections qu'il y a chez lui.
Les numismates, je pense qu'on les appelle.
Bravo! Numismate, c'est un collectionneur. C'est la numismatique.
Voilà.
L'idée, hey, t'es bon.
Ça, l'autre, c'est les philatélistes, hein? Les philatélistes qui collectionnent les timbres, hein? C'est ça.
Hey, coudonc, on va voir si t'es tout fort que ça. Je vais t'en demander d'autres plus tard, voir si t'es capable de les nommer. Mais celle-là, c'est fort, là. C'est pas facile, un numismate.
Ouais.
Mais collection de pièces de monnaie, il y en a une réunie par un Danois qui est gardé en sécurité qui a été gardé pendant plus d'un siècle, qui a rapporté 22 millions de dollars aux enchères à Copenhague en septembre cette année. 22 millions pour une collection de pièces de monnaie. C'est sûr que moi, j'ai trippé sur les cartes de hockey dès mon jeune âge. J'achetais les cartes d'Opichi puis tout ça, puis je me suis fait une belle grande collection que j'ai fini par vendre. J'aurais pas dû, mais là, des cartes de sport, là, c'est incroyable comment ça peut parfois valoir cher. Il y a une carte de Babe Ruth, légende du baseball américain dans les années 1920-1930, qui a été vendue en décembre l'année passée pour plus de 7 millions.
Une carte
de Babe Ruth.
Wow.
Et une famille de la Saskatchewan qui a découvert une boîte qui n'était pas ouverte, des cartes d'hockey, ça j'aurais halluciné. Ils ont trouvé ça dans un grenier en Saskatchewan, des milliers de cartes d'hockey de la marque Opichi, une caisse.
Wow.
Ouais. Puis là, les cartes d'hockey dataient de 1979 et là-dedans, il y a les cartes recrues de Wayne Gretzky.
Ben!
Là, le nombre exact de recrues de Wayne Gretzky qu'il peut y avoir dans la caisse, c'est inconnu, parce que là, c'est en vente aux enchères, la caisse fermée présentement, parce que ça fait deux fois qu'elle est mise aux enchères. On dit qu'il pourrait y avoir entre 25 et 27 recrues de Wayne Gretzky dans la boîte. Et puis ça, on sait que les cartes de Wayne Gretzky, c'est assez courant, mais une boîte de cartes OPG qui date de 1979, ça l'est moins. Et puis, ouais. La valeur des cartes recrues de Wayne Gretzky, mettons en mauvais état, ça peut valoir des centaines de dollars. Les cartes qui sont en bon état sont vendues à peu près 200 000, la carte de Wayne Gretzky. Mais en 2021, il y a Auctions Heritage, Auctions, en tout cas en anglais, qui ont vendu une carte recrue de Wayne Gretzky pour un montant record, 3 750 000 américains. C'est un peu plus de 5 millions canadiens, ça, pour la Wayne Gretzky. Et la fameuse boîte dont je te parlais, ben, a été remise aux enchères parce qu'elle avait été vendue 5,1 millions, puis ça n'avait pas été payé. Puis là, présentement, à l'heure où on se parle, est encore aux enchères, cette boîte-là, de la famille de Saskatchewan. En tout cas, on verra bien qui mettra la main là-dessus, mais cette personne-là pourrait avoir entre 25 et 27 Wayne Gretzky recrues. Donc, c'est... on parlait des jeux de société récemment, puis les jeux de Monopoly, on disait, hein, une collection de jeux de Monopoly, il y a Niels Callen, qui a été proclamé par le livre Guinness des records comme le plus grand collectionneur de jeux de Monopoly. Il y en a 3029 dans sa collection.
Oh, ouais.
Il les garde scellés. Il les a pas ouverts. Il veut pas les ouvrir parce que sinon, on dit que ça perd 80% de sa valeur.
Ben oui, c'est
ça. Donc, lui, il garde toutes les boîtes emballées. Il se fait une collection de jeux de Monopoly, mais il dit qu'il n'aime même pas le jeu. C'est vraiment juste pour la collection. Lui, il n'aime pas se jouer, mais il veut la collection de jeux.
Ils sont belles. Sont quand même belles, les boîtes de Monopoly, quand tu les regardes, sans égard à la sorte de Monopoly, de jeux de Monopoly. Tu sais, tu parlais, il y avait des Star Wars, des choses comme ça.
Oui.
Quand même un beau design, là. Tu sais, c'est quand même pas pire là, d'avoir ça.
Je trouve que c'est une bonne idée de collection. Ben, ouais. Ouais, oui, vraiment. Puis lui, ça va valoir une fortune parce qu'ils sont tous scellés.
Clairement. Ah.
Ben oui, puis c'est ça. Si j'avais fait ça, moi, quand j'étais jeune, je recevais à Noël toujours les Transformers, là, puis qui étaient en métal à l'époque, qui pouvaient se transformer et tout ça. Puis ça, dans sa boîte, pas ouvert, moi, je les ouvrais, je jouais avec, j'ai lancé ses murs, j'ai cassé tout.
Ben oui.
Mais là, là j'en redemandais un autre l'année prochaine. Mais j'en ai eu plusieurs, puis aujourd'hui, ça vaut le prix d'une maison dans sa boîte pas ouvert. Le Optimus Primus, là, en métal, dans sa boîte pas ouvert, j'aurais tellement dû en garder une. Ah, en tout cas, c'est dommage. Hein, mais il y en a qui ont gardé ça, comme scellé comme le monsieur du Monopoly, puis. Ça fait de l'argent. Mais collection, autre collection de canards en plastique. Hein, qui l'aurait pensé? Tu sais, les petits canards pour mettre dans le bain. Et ça, ça a un nom, cette collection. Est-ce que tu le sais? Comme ça, t'es-tu capable de
là, par exemple, tu dépasses mon seuil de connaissance et de beaucoup.
Faut que tu fasses un lien avec canard et plastique dans le nom. C'est la canaroplasticophilie.
Tu me niaises. Pour vrai?
Non, ça existe.
Ah ouais, hein?
Collectionneur de canards en plastique. C'est devenu populaire, surtout dans les années 70, ça, 1970. Un objet de collection, puis c'est la preuve que c'est toute une collection. L'américaine Charlotte Lee en a plus de 2100 canards.
C'est bizarre parce que j'avais tendance à penser que les canards en plastique, somme toute, c'était pas mal toute la même affaire, tu sais, OK, en
non,
forme de grande.
De formes différentes. Ben oui, puis j'en ai d'autres de même. Il y en a une dont je vais te parler tantôt que tu vas rire aussi pour le même concept, là. Mais oui, il y en a des différents, des canards en plastique. Ils sont tous différents, elle. Elle en a 2100.
Aïe, aïe.
Les étiquettes de fromage, pourquoi pas? On appelle ça la tyrosémiophilie.
OK.
Et ça existe, le nom pour la collection d'étiquettes de fromage. Les plus grandes collections se composent de plus de 100 000 étiquettes. C'est grâce à leur forme, leur couleur et leur thème. Ils donnent des renseignements intéressants sur l'histoire des fromageries.
Wow! Alors,
quand même intéressant. Collection de boules de bowling, ça c'est un petit peu plus pesant.
Un peu?
Ben, il y a un homme qui a passé 15 années à collectionner des boules de bowling pour pouvoir réaliser une grande pyramide de boules de bowling dans son jardin. Il semblerait que le pari soit réussi. Il y a une construction de 1785 boules. J'ai vu ça en photo. C'est quelque chose. Une collection de boules de bowling. C'est juste que je trouve ça encombrant.
Une pyramide en boules de bowling, il faut avoir le goût, hein?
Oui, ben c'est toute une collection. Ça va peut-être vous donner des idées. Moi, celle-là, je la trouve difficile. J'aime mieux les petites cartes de hockey ou les timbres.
Prends moins de place un peu, hein?
Hey, mais sais-tu comment qu'on appelle quelqu'un qui collectionne le sable?
Un sablophile, je sais pas.
C'est l'arénophilie.
Ah, OK.
Un arénophile, ou on peut l'appeler aussi le psammophile. Et ça, c'est une collection de sable ou de poussière, de différentes textures, des couleurs et des endroits du monde. Un site où on peut voir 5169 échantillons de sable s'appelle le site arénophile.fr. Arénophile avec PH pour le F, là. C'est arénophile.fr. Vous pouvez aller voir ce site-là. Vous allez trouver vraiment une collection de sable assez hallucinante. Il y en a qui collectionnent des balles de golf. L'Américain Dix Falensky a commencé sa collection de balles de golf en 1965. Aujourd'hui, il y en a combien, tu penses? C'est sûr que c'est dans les... beaucoup.
2000?
Beaucoup de milliers. 36 000 balles de golf. Sa collection est actuellement conservée chez eux, à son domicile, à M. Dick Falensky. Puis ses balles sont conservées dans des meubles faits sur mesure pour pouvoir les stocker. Et son objectif, c'est d'atteindre 50 000 balles. Il est bien parti, M. Falensky.
Oui, hein?
Les gommes, qui aurait l'idée de collectionner des gommes à mâcher, c'est gommophilie.
OK, à mâcher, mais pas mâcher. Je veux dire, des palettes de gomme, là, c'est ça.
C'est ça, on va les prendre neuves et non mâcher. C'est ça l'idée. c'est ça. Il a surtout collectionné, la collection que j'ai vue, c'est surtout des gommes qui ont des motifs qui sortaient de l'ordinaire. La plus grande collection de gommes que j'ai trouvée sur Internet, il y avait 44 099 gommes dans la collection. Okay. Bon, il en manquait une pour faire 44 100. Bon, il va sûrement en trouver une, hein, pour ajouter. Mais ça, je ne sais pas c'était quelle année, mais je sais que c'est assez récent. Hé, hey, les distributeurs de bonbons Pez, tu as connu ça? On avait ça à l'école.
Absolument.
Les distributeurs, tu passes le piton, bon,
En plastique coloré, là, c'est ça,
ouais. Oui. Il y a Régis Berthe en France, qui en a plus de 1400, puis qui a fait une collection, puis c'est beau, ça, comme collection. Ça, je trouve ça intéressant, puis c'est des motifs différents, c'est original. Ça ne vaut pas une fortune, mais... C'est intéressant comme collection.
Bien, vendu à la pièce, sans doute que ça ne vaut pas une fortune d'avoir un distributeur de bonbons Pez avec la tête de Darth Vader, on va dire, dessus, ou encore de Donald Duck. Mais si tu mets ça en bunch, là, en gang, là, ça doit quand même être assez intéressant, au point où je dis que, même qu'à la rigueur, ça pourrait quasiment faire une exposition dans un musée, tu sais, l'histoire des bonbons Pez, on va dire, là, tu sais, pour dire. Là.
Oui.
Tu pourrais charger un 5-10 piastres, puis il y aurait des gens qui iraient voir une exposition comme ça, convaincu.
OK, fait que c'est rentabilisable.
Ça peut être rentabilisable, je pense.
Ça pourrait, le potentiel. Ouais. Collection de boîtes de Pringles. Célèbre, ça, ces chips-là, à partir des années 1980, puis il y en a de la boîte de Pringles différente. Aujourd'hui, les fameuses boîtes, j'ai vu une collection de 1098 tubes différents de Pringles. Des pancartes ne pas dérangées, c'est dans la catégorie insolite. C'est l'Italien Eduardo Flores qui a la plus belle collection avec 15 000 exemplaires de pancartes ne pas dérangées. Tu sais, qu'on met à la porte d'un motel. Ça peut être en bois, papier ou petits objets type peluche aussi. Ça date des années 40 pour les plus anciennes, ne pas dérangées.
Okay.
Celle que je te disais que tu allais rire un peu parce que tu vas dire comme les canards en plastique, là, les cônes oranges.
Ah ouais.
Ben ça, c'est, on se dit, ils sont tous pareils. Ben non. Il y a David Morgan qui est un Britannique de 73 ans qui fait partie du Dolls Men Club où il est surnommé le Cone Man le barbare. Faire un jeu avec Conan.
Conan, ouais, c'est ça. Ouais.
Lui, là, David, collectionne les cônes de signalisation depuis 1970. Il y en a plus de 500. Ils sont tous différents, avec différentes formes et tout ça.
C'est un peu comme les boules de bowling, par exemple. Ça prend de la place un peu, ça aussi, là.
Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est dans ça, faut vouloir. Faut vouloir. Et une que je trouve superbe, les cartes Joker d'un jeu de cartes. Hein?
Ah oui.
Quelle belle carte. Souvent, la carte Joker, c'est la plus belle du paquet. Il y a un magicien italien, Donato De Santis, qui a la plus grande collection de cartes Joker, 8520 cartes dans sa collection. Ça, c'est de toute beauté. Et il avait débuté ça avec son mentor, Fernando Riccardi, en 1999. Et ça a donné là, une superbe collection par la suite. Et chaque Joker est unique. Bon, ben. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Donc, il y a des collections de serviettes en papier, des étiquettes de bananes, des sachets de sucre plein, des objets McDonald's. Une autre idée, ça, c'est vraiment... Il y a Mike Fontaine, 60 ans de Pennsylvanie, qui a plein d'objets McDonald's, 75 000. La plus grande collection McDonald's du monde. Il y en a même qui collectionnent les briques pour avoir aussi un peu l'histoire du patrimoine de l'humanité à travers leur collection de briques. Donc, toutes sortes de collections. J'espère que ça vous donne des idées. Moi, je vais rester avec la mienne de cartes de hockey qui est ma préférée.
Oui, mais en conclusion, ce que je retiens de tes affaires de collection, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut collectionner. C'est à toute fin utile. La seule limite, c'est notre imagination. C'est un peu ça.
Exactement. Puis il y en a vraiment des belles, impressionnantes, des collections. Je trouve ça assez fascinant.
Et ça vient de l'heure. L'émission peut contenir des infos de cette semaine. Puis la semaine prochaine, on va parler, entre autres choses, de cure-dents.
Oui, c'est le seul sujet que je vous dévoile pour tout de suite, mais celui-là, je vais le faire, l'histoire des cure-dents.
OK, on va être là la semaine prochaine pour plus contenir des infos. Salut, à une prochaine, merci.
Salut.